des polars et des notes.
Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Évasion pour cette première des polars et des notes estivales. Juste à temps pour vous permettre de tasser encore un peu plus vos valises de juilletistes avec les romans dont nous allons nous régaler aujourd'hui. Pierre-Yves a son seau, sa petite pelle et sa table de mix. Nous allons donc avoir un son d'enfer pour cette heure de noir intense. Vous retrouverez bien évidemment toutes les références et les liens utiles dans l'article de publication de l'émission sur le webzine 404. Et nous allons parler d'identité, pendant cette heure, des contrôles du même nom qui finissent mal, des personnalités perdues, évaporées, des identités troubles et de ces identifications qui font le sel des polars et thrillers depuis que ceux-ci existent en fait. En parlant des identités perdues, nous allons tout de suite en Écosse avec Les disparus du phare de l'excellent Peter May, qui sont parus aux éditions du Rouergue dans la collection Rouergue Noir. Et là, on a un homme qui se réveille sur une plage des îles Hébrides, tout au nord de l'Écosse. Il vient juste d'être rejeté par l'océan. Il est trempé, transi, au bord de l'état de choc. Il ne sait absolument pas ce qu'il fait là, ni surtout qui il est, ce qui est un peu embêtant. Il a pourtant le sentiment prégnant d'être mêlé à une sombre affaire qui s'est passée, une tragédie, et qu'il y a à voir là-dedans, mais il ne sait absolument pas quoi. Alors il va suivre toutes les pistes comme un mort de faim, mais il a lui-même semé le trouble avant son accident, ce qui fait qu'il va pas mal tourner. Il n'a pour indice qu'un livre sur la disparition mystérieuse de trois gardiens de phare de l'île Flannan, il y a plus d'un siècle de ça, et une carte avec un chemin de randonnée surligné. C'est pas beaucoup, et c'est encore un formidable polar de Peter May qui revient sur l'île des chasseurs d'oiseaux pour notre plus grand plaisir. Et il y a un peu de musique dans ce roman, dont « We are the fallen, bury me alive ».
Yeah.
Bon, on parle d'identité toujours, mais là, ce sera de contrôle d'identité ou tentative de contrôle ou d'arrestation au cours d'une émeute qui tourne mal. Ce sera avec Chloé Mehdi qui va nous parler de son polar « Rien ne se perd ». Bonjour Chloé.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce qui se passe au début de ton polar, donc ?
Alors, c'est une histoire de violence policière, d'impunité juridique vis-à-vis des mêmes violences policières. Donc, c'est à travers une galerie de personnages qui sont plus ou moins en mal de vivre, on va dire. Donc,
ce petit garçon-là, Mathia, qui est au début du roman et qui a 11 ans et qui voit fleurir des tags sur les murs de son quartier avec le portrait d'un jeune qui a été tué par la police. Et lui, il ne l'a jamais connu.
C'est ça, il ne l'a jamais connu, mais qui s'appelle Saïd, a beau être mort il y a plus de 15 ans. C'est encore des retentissements sur la vie d'aujourd'hui, notamment sur Mathia, dont la famille habitait le même quartier que Saïd. Et du coup, c'est comment on réagit face à ça, face à un meurtre qui n'a jamais été puni, du coup.
Il n'y a pas de justice possible, c'est un petit peu ce que tu dis, c'est que de toute façon, même si le coupable était un jour arrêté, ça ne fera pas revenir Saïd.
Et bah, le coupable est arrêté et ça ne fait pas revenir Saïd. le coupable n'est pas sanctionné, c'est là le nœud du problème. Après, évidemment, même s'il y a une sanction juridique, ça ne fait pas revenir les gens, mais ça valide au moins la barbarie de ce qui s'est passé. Et là, il n'y a même pas de validation du système juridique. Donc, il y a une justice possible, je pense, c'est la justice sociale. Enfin, au final, c'est ce à quoi aboutit, ce genre d'histoire.
Il y a un petit peu deux clans, quand même. Il y a le clan de la police qui protège les siens. Et il y a le clan des habitants du quartier qui est en train de faire revenir un petit peu la mémoire de Saïd.
Oui, du coup, c'est deux clans qui représentent chacun leurs intérêts. Donc, d'un côté la police, d'un autre côté les gens du quartier. Et on voit bien comment, dans ce livre, j'essaye de montrer un peu ce fossé en fait, qui existe du coup, entre d'un côté les institutions, notamment la police et la justice, et d'un autre côté les gens des quartiers. Donc, comment, en fait, à force d'impunité, justement, pour les policiers qui tuent des gens des quartiers, parce qu'en général, c'est des gens des quartiers qui sont tués. Donc, le fait que la justice ne réagisse pas, et à côté de ça, le fait que les actes de délinquance, eux, soient punis extrêmement sévèrement, très souvent, ça creuse un fossé qui est énorme, où d'un côté, on a ceux qui ont le permis de tuer, carrément, et d'un autre côté, ceux qui ont juste le droit de rester enfermés dans les halls d'immeubles et de surtout pas en sortir. Sur ce fossé qui se creuse de plus en plus, je pense, dans la société française, entre d'un côté la société et de l'autre côté ceux qui n'en font pas partie finalement, qui les décident ou pas.
Et qui n'ont pas la parole, jamais, apparemment.
Jamais. Ça, c'est évident. Hein. Si on écoute un peu les médias, il n'y a jamais... Vaguement, des fois, il y a des éducs qui vont intervenir, qui sont dans les quartiers, mais les gens des quartiers eux-mêmes, non, on leur donne jamais la parole, c'est sûr.
Et il y a ce petit garçon, là, Mathia, qui vit donc chez Zé. Alors Zé, c'est un personnage particulier parce qu'il il vit baigné dans la poésie, mais il travaille veilleur de nuit, un boulot pourri. Il y a Gab, sa copine, qui est suicidaire. Et ce petit garçon, là, on se demande comment il va se construire.
C'est ça, du coup, finalement, il se construit contre, je dirais. Enfin, tous ces malheurs qui arrivent dans sa famille, le fait qu'aucun adulte autour de lui ne soit capable de réagir à ce qui se passe, ni de lui expliquer même ce qui se passe, parce que c'est tellement injuste au final qu'il n'y a même pas de mots à mettre dessus, surtout pour expliquer à un enfant de 11 ans, que du coup il va se construire un peu tout seul en réaction face à tout ce qui se passe, il va se construire contre.
Est-ce qu'il y a une chance de rédemption, ce petit garçon ?
De rédemption, c'est-à-dire ?
De s'en sortir, tout bêtement. Parce que là, il est coincé entre une histoire qui ne lui appartient pas et qui a changé complètement sa vie. Et la sienne, elle est bien sombre.
Oui, mais d'un autre côté, au fil du livre, il apprend un peu, il me semble, à faire avec au final. Enfin, c'est un peu l'objectif pour ce personnage dans le livre, c'est d'apprendre qu'il ne peut pas contrôler finalement ce qui se passe autour de lui, qu'il ne peut pas changer le passé, et que malgré tout ça, en fait, il peut continuer, quoi.
Et Gabrielle, alors Gabrielle, c'est la copine du tuteur de Mathia, et Gabrielle, elle a envie de mourir. Mais c'est pas tellement qu'elle est suicidaire, c'est qu'elle veut plus vivre. C'est un peu comme ça que tu l'as décrit, c'est quelqu'un qui peut pas vivre dans ce monde-là.
Oui, j'avais envie d'aborder un peu le suicide sous un angle différent, parce que souvent quand c'est abordé en littérature, c'est quelqu'un qui a toujours d'excellentes raisons, enfin qui, on va remonter tout le fil de son enfance, alors il s'est passé ça, il y a eu tel traumatisme, et du coup ça explique que les gens aient plus envie de vivre. Moi c'est vrai qu'il y a la plupart des gens que j'ai connus dans ma vie qui voulaient mourir, c'était des gens au final qui, c'était pas tant leur histoire personnelle qui leur donnait envie de mourir, mais ce qu'ils voyaient tous les jours en fait, ce qu'ils affrontaient tous les jours, et quand tu peux plus sortir de chez toi sans avoir envie de vomir à chaque coin de rue, bah ça devient un peu compliqué de continuer. Donc j'avais envie d'aborder le suicide sous cet angle-là, de l'absurdité en fait de ce qui nous entoure, qui fait qu'au final c'est assez compréhensible je pense, des envies de mourir qui peuvent traverser à certains moments.
Ouais, c'est un peu ça, à la fin, au cours du roman, il apparaît comme de plus en plus naturel.
Cette envie de mourir ?
Oui.
Oui, bah oui, vu tout ce qui se passe autour, ça se comprend complètement. Enfin, je pense que le suicide est complètement compréhensible, même si c'est très dur d'y faire face et que c'est très dur de l'admettre parce qu'on est plus ou moins programmé pour avoir envie de vivre. Au final, ça paraît évident dans certains cas, quoi. Si, à partir du moment où on regarde autour de nous. Et ce qui est décrit dans le roman, c'est qu'au final, soit on arrive à piocher un peu du bonheur par-ci par-là dans nos vies personnelles et à faire abstraction de ce qui se passe autour. C'est ça, finalement, c'est arriver à fermer les yeux pour avoir envie de vivre. Si on n'arrive plus à fermer les yeux et si on n'arrive pas à trouver d'autres raisons autour de nous, là, c'est fini, il n'y a plus d'espoir.
Il n'y a plus d'espoir possible. Mais ce qui ressort un peu, c'est que tous les rapports sont truqués, en fait, entre les gens.
Oui, alors après, c'est pas tant volontaire que la situation dans le livre fait que il y a des secrets, il y a des injustices sociales telles qu'on peut difficilement en parler parce que elles parlent d'elles-mêmes, on va dire, et elles sont difficilement explicables à un enfant vu que c'est raconté du point de vue de Mathia. Après, c'est pas une volonté spécifique de faire en sorte que les personnages se comprennent pas, etc. Je dirais qu'il y a Mathia qui essaie de comprendre tout le monde autour de lui et personne autour de lui qui veut se laisser comprendre parce que c'est laisser aussi quelqu'un pénétrer dans son intimité que de se laisser comprendre.
Oui, et puis ils trimballent un sacré paquet de casseroles, tous.
Ouais, c'est clair.
Quand même.
C'est vrai, ouais. Ils ont tous aussi des choses, des choses à se reprocher, des secrets.
Des choses un peu particulières qu'on peut difficilement expliquer à un gosse, quand même.
C'est ça, ouais.
Mais par contre, il y a la poésie. Et ça, c'est très important dans le roman. On a l'impression que c'est quelque chose qui fait vivre.
Oui, surtout pour Z, du coup, le tuteur de Mathia, qui trouve un exutoire un peu des vers qui ont été écrits il y a des siècles, parce qu'en général, c'est pas du tout des poètes contemporains qui l'admirent, c'est plutôt du Baudelaire, du Rimbaud, etc.
Et Aragon.
Mais du coup, c'est une façon de... Et Aragon, surtout Aragon. Mais du coup, c'est plus une façon, pour moi, de fuir la réalité, de se réfugier dans la beauté des mots qui peuvent décrire des... Par exemple, il y a un poème qui a beaucoup d'importance dans le livre, c'est l'Affiche rouge d'Aragon, donc, qui a été écrit après la Seconde Guerre mondiale à propos de résistants. Et de résistants étrangers aussi, c'est pour ça que le poème est réutilisé. Et il y a cette façon d'Aragon de décrire la mort de ces 23 personnes qui est juste magnifique, en fait, je trouve. Et du coup, d'arriver à faire de la beauté à partir de la mort, du vide...
De choses dégueulasses, c'est ça, super bien. Eh ben, tu sais pas, on va se l'écouter, l'Affiche rouge, par Léo Ferré, parce qu'elle est présente dans le bouquin, et puis voilà. Et moi, je recommande aux gens de lire « Rien ne se perd » de Chloé Mehdi chez Gigal Polar. Merci Chloé.
De rien.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.
Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes, ni l'orgue ni la prière aux agonisants. 20 ans déjà que cela passe vite, 20 ans, vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles, y cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence, les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les mornes matins, on était différents. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement « Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. » Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses. Adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini, plus tard en érivant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline. Que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma Mélinée, oh mon amour, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent. 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. 23 étrangers, nos frères pourtant. 23 amoureux de vivre à en mourir. 23 qui criaient la France en s'abattant.
Les adeptes de Ingar Jonsrud, paru aux éditions Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. Alors là, on touche à l'identité raciale ou religieuse pour ce thriller norvégien où la disparition d'une mère et de sa fille va mener la police norvégienne à enquêter sur une secte fondamentaliste chrétienne apocalyptique, des gens fort sympathiques, et un peu terroriste. Y a un flic très humain, fragile, mais déterminé, qui va affronter toutes les manipulations possibles pour remonter les pistes laissées par cette fameuse secte, la Lumière de Dieu. Un bien sombre groupe d'assassins bigots et stupides. Ça va pas ensemble, ça. Il va devoir également se colter au passé trouble de la collaboration de certains Norvégiens avec l'Allemagne nazie et sa participation à l'horreur des camps sur son propre sol. Pour tout compliquer, la jeune femme disparue est la fille d'une des figures de proue de la politique du pays. Et heureusement que le commissaire Beyer peut compter sur le talent tout neuf de sa collaboratrice Kafa Iqbal, parce qu'il va y avoir des pots de banane et des chausse-trappes. Entre autres musiques, on y parle de Tom Waits, et nous on va s'écouter « Way Down in the Hole ».
Walk through the garden, you gotta watch your back. Well, I beg your pardon, walk the straight and narrow track. If you walk with Jesus, he's gonna save your soul. You gotta keep the devil way down in the hole. He's got the fire and the fury at his command. Well, you don't have to worry if you hold on to Jesus' hand. We'll all be safe from Satan when the thunder rolls. We just gotta keep the devil way down in the hole. Thank you. angel sing about Jesus' mighty sword, and they'll shield you with their wings and keep you close to the Lord. Don't pay heed to temptation, for his hands are so cold. You gotta help me keep the devil way down in the hole. 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 You gotta help me keep the devil down in the hole.
Alors, quête encore plus capitale, si possible, pour le roman à venir. Il s'agit d'identité et de genre, la totale. L'enquêteur devient enquêtrice et ce n'est pas du goût de tout le monde. Nous allons voir tout ça avec l'auteur de « Sois belle et tais-toi » qui est paru aux éditions La Joanie, Jérémy Bouquin. Bonjour Jérémy.
Bonjour Patrick.
Alors, ça nous raconte l'histoire de Samuel, qui est un excellent enquêteur pour une compagnie de sécurité, mais qui rêve et est en train de devenir Samantha.
Tout à fait.
Et ça ne plaît pas à son patron qui la colle sur une minable arnaque aux assurances en Corrèze.
C'est exactement ça.
Et le problème de Sam, c'est qu'elle n'est pas encore tout à fait à l'aise dans son corps, non ?
Oui, le processus de mutation est commencé, la prise d'hormones est lancée et elle se découvre de plus en plus avec des seins, avec un corps de femme qui apparaît de plus en plus et ça la chamboule de plus en plus. Après, Sam, même si à l'origine il s'appelle Samuel, a toujours été une femme. C'est toujours considéré comme femme prisonnière d'un corps d'homme. Donc c'est juste un processus de mutation qui paraît tout à fait logique pour elle, mais qui n'arrive pas forcément au bon moment pour mener une enquête.
Il y a tout de même les trucs qu'elle prend pour se transformer, qui font quand même une sacrée tambouille dans sa tête.
Le processus, il est énorme. Enfin, la prise d'hormones, nécessairement, pose des questions et sur ce qu'on va devenir et sur ce qu'on est. Et elle est à moitié défoncée à longueur de temps, mais c'est difficile d'être autrement dans ce genre d'état, quoi.
Ouais, raconte un petit peu, on dirait un petit peu un truc à la Lemmy Kilminster qui disait qu'il avait un moteur dans sa tête. Elle, c'est un marteau-piqueur.
C'est exactement ça. C'est la sensation d'être complètement secoué. Ça veut dire on demande aux hormones de produire ce qui est pas normal. Elle devrait produire la testostérone normalement. Et là, elle devient femme. Donc nécessairement, les hormones vont complètement la chambouler et prendre une partie importante de l'enquête.
Oui, et là, donc, Sam arrive à Brive, dans un resto qui brûle un peu trop souvent, quand même. Il y a un petit peu le feu, quoi. Et il tombe sur deux personnages extraordinaires, c'est Karl Clash, ça ne s'invente pas, qui a un passé trouble, et Dorian, serveuse pendant les repas, et refuge tarifé des routiers solitaires.
Oui, pute, oui.
Et, en gros, et ces deux-là vont un peu servir d'accoucheurs.
Oui, c'est ça. Et puis, c'est marrant dans un lieu où on pourrait penser que les stéréotypes sont les plus prégnants. Ben là, non, pas du tout. On est dans le refuge de l'humanité, quoi, entre les routiers qui sillonnent les routes et qui sont seuls à la longueur de journée. Ces deux personnages qui sont seuls aussi, Sam qui est seul, un autre personnage qui lui aussi est trouble. Donc c'est nécessairement un lieu où on joue un peu on joue un peu la comédie, où on se retrouve, où on est un autre et on joue sur ces ambivalences-là. C'est intéressant le système des routiers, ça a croisé des routes. C'est des restaurants qui sont à la fois populaires, où les gens se connaissent pas forcément, où il y a côté famille en plus. Et puis le fait qu'il y ait cette vieille pute qui l'accompagne dans sa mutation, c'est intéressant aussi.
Oui, et puis il y a le côté où Carl et Dorian ont un passé qu'ils ne veulent pas dévoiler, comme Sam a envie d'oublier le sien.
Tout à fait. Et puis, par sous-entendu, ils se comprennent. C'est ça qui est assez marrant à décrire. Donc, c'est là-dessus que j'avais envie de jouer.
Ouais, c'est ce qui passe dans le bouquin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de grandes explications, comme avec son boss.
Tout à fait. Les trois ont quelque chose à cacher. Les trois savent qu'ils cachent quelque chose. Et pour autant, ils vont pas s'emmerder les uns et les autres. Une volonté Sam est emmerdé parce qu'il sait pertinemment que Carl lui ment. Il est emmerdé parce qu'il sait pertinemment ce que Dorian fait aussi. Et les deux autres, lui renvoient le fait que nous emmerde pas et on t'emmerdera pas.
C'est un peu ce qui se passe, ouais. Et il y a cette fameuse robe rouge. Elle symbolise quoi, la robe rouge?
L'ultra-féminité. Enfin, on est dans quelque chose qui... Tant que vous ne la portez pas, vous n'êtes pas ce que vous êtes. Enfin, il va porter cette robe rouge du début jusqu'à la fin comme une croix. Il sait pertinemment, le jour où il la mettra, c'est que le processus sera terminé, il sera une femme. Donc tant qu'il ne se sent pas apte à la mettre, il n'est toujours pas femme dans sa tête non plus. Et ça me semblait important que ça soit Dorian qui l'amène à porter la robe rouge.
Oui, c'est
Dorian, elle fait accoucher en fait.
Voilà, c'est ce que je pensais. Ouais. Clash et Dorian, c'est les accoucheurs. Et il y a aussi le dessin. C'est-à-dire qu'il a besoin, Sam, d'avoir une représentation et c'est par le dessin que ça va passer.
Et puis en même temps, il va le détruire. Enfin, c'est plein de choses en même temps. C'est le fait de se dire, tiens, j'en suis là. C'est dans votre critique sur votre site internet, vous parlez de Hit Miss. Et c'est vrai que c'est troublant d'avoir un corps de femme avec un pénis. Et le fait de le dessiner, le fait de le photographier, de le représenter, c'est une étape pour Sam. Ça veut dire c'est l'étape où il a à la fois des seins et à la fois un pénis. Et la représentation, le fait de se mettre nu devant un homme... Donc le fait d'être enfin peut-être vraiment femme, ou enfin peut-être être vu comme une femme, ça change tout.
Il est vu comme il est.
Oui.
Et c'est tout le problème de Sam, c'est qu'il ne veut pas être vu comme il est.
C'est
jusque-là.
Ça. Voilà, ça veut dire que c'est quand même compliqué. D'un côté, vous devez renvoyer à la société que vous êtes un homme, parce que vous avez encore l'apparence d'un homme, vous avez encore des poils, etc. etc. Et de l'autre, vous avez tous les attributs des femmes qui commencent à pousser vraiment fort. Donc, ça pose problème.
Ouais, et Sam, finalement, qu'il soit en robe rouge ou en jean, il est aussi performant. Donc, c'est quand même un bon roman contre l'intolérance.
J'espère que ça peut faire réfléchir. Enfin, il y a Rimbaud qui disait jeu est un autre, donc ça c'est intéressant. Et de Beauvoir, on n'est pas femme, on le devient. Et je trouve que les deux vont ensemble, quoi. Ça veut dire la sexualité, c'est quelque chose qui nous est propre. Les autres, ils en ont rien à foutre. Notre processus de mutation et ce dans quoi on peut être le mieux, en quoi ça concerne les autres. Enfin, je vois pas pourquoi on emmerderait le monde à vouloir devenir homme, femme, etc. en cours de sa vie.
Eh ben, merci beaucoup, Jérémy. Donc, je rappelle le titre de votre ouvrage, c'est « Sois belle et tais-toi », T-E-S. Vous retrouverez tout ça sur 404 Webzine. Merci, Jérémy. On va se quitter avec Led Zeppelin.
Merci, Patrick.
Qui écoute Sam, « Whole Lotta Love ». Nouvelle maison d'édition dans le coin des éditeurs avec le projet, devenu réalité d'ailleurs, de Nadège Agulot qui publie d'excellents romans noirs dans sa collection Agulot Noir avec déjà, pour revenir à notre thème, une identité marquée au niveau des couvertures. Bonjour Nadège, bienvenue dans Des Polars et des Notes.
Bonjour Patrick, merci de nous accueillir.
Alors pourquoi donc une nouvelle maison ?
Nouvelle année, nouveau projet, une nouvelle équipe, une nouvelle identité visuelle, mais toujours les mêmes goûts littéraires. Essayer de faire découvrir des nouvelles voies, nouvelles contrées, des environnements qu'on connaît, que les lecteurs français ne connaissent pas, des communautés. Essayer un peu de surprendre le lecteur et donc d'aller chercher, deux premiers titres là dans la collection noire, en Roumanie. Et en Italie, dans la région parmesane qu'on connaît moins en littérature.
Et donc la ligne éditoriale, c'est de faire découvrir l'Europe, le monde.
Le monde.
Carrément.
Donc par exemple l'année prochaine, on aura un roman bengali, un roman lituanien, ukraino-lituanien, on repart en Italie, on repart en Russie, voilà. Donc c'est vraiment, oui, la découverte du monde. Notre slogan, c'est abolir les frontières, alors que ce soit qu'elles soient géographiques, sociales, politiques, psychologiques, voilà. Donc c'est vraiment faire découvrir le grand monde aux lecteurs français.
Et une vraie identité visuelle. Les couvertures sont toutes particulières.
Tout à fait. Donc là, on est plutôt sur une identité visuelle qui est artisanale et artistique, c'est-à-dire que chaque couverture est élaborée à base d'un photogramme. Le photogramme, c'est une technique photographique qui a été développée dans les années 20 par Man Ray, qui permet de prendre une photo sans appareil photo, c'est-à-dire que vous mettez du papier photo, vous mettez votre objet dessus, vous le surexposez de lumière et ça vous donne une impression d'objet.
C'est Dada.
Pardon ?
C'est Dada, surréaliste.
C'est ça. C'est un mélange d'art contemporain, un peu surréaliste, Dada. D'ailleurs, notre logo, qui est un A inversé, c'est aussi un œil un peu Dada, justement. Je sais pas si vous avez vu, mais donc sur les livres, on a le A sur les dos des livres, sur les tranches. Et qui fait, c'est un peu cette symbolique Dada et surréaliste.
Ouais, l'œil de Buñuel.
Voilà. Tout à fait.
Et vous avez des bandeaux très spéciaux aussi.
Alors voilà, l'idée, ça vient de notre graphiste, hein, qui fait aussi partie de l'équipe Agulo, qui est sud-africain et qui a un talent monstre. Et l'idée, c'était d'essayer d'innover. Comment on peut encore innover dans le domaine de l'édition, quand on parle de l'objet livre. Et l'idée, là, c'était donc, en plus de ce photogramme, essayer de proposer, comme c'est quand même, on est sur une œuvre artistique, chaque photogramme est vraiment unique et ne sera utilisé que par Agulo Édition. On n'est pas allé chercher nos visuels dans un stock photo. L'idée, c'était vraiment de mettre en avant ça, cette pièce d'art artistique. Et du coup, c'était de ne pas mettre ni le titre, ni le nom de l'auteur sur la couverture. Et de rajouter un bandeau autour de ce livre. Alors, c'est vraiment un bandeau de bonne qualité. Hein. C'est pas les
bandeaux. Ah oui, c'est épais, oui, oui.
Voilà. Et en fait, et de se dire comment on peut se servir de ce bandeau pour amener encore plus le lecteur dans l'ambiance du livre, dans ce que va être le livre, etc. Donc sur ce bandeau, évidemment, on a le titre, le nom de l'auteur, etc. Mais aussi, on a, ça me tenait à cœur, c'était de mettre une citation. En fait, en quatrième de couverture, on a une citation en français du livre. Et moi, ce qui me tenait à cœur, c'était de montrer au lecteur français à quoi ressemble la langue originale du livre. Donc dans chaque bandeau, on a une citation, donc en italien, en roumain, etc., pour permettre au lecteur français de se rendre compte à quoi ressemble, par exemple, le russe. C'est une langue qu'on voit, voilà, avec notre alphabet, etc., ou même le roumain, le polonais, etc. Donc, voilà, on a ça. Et puis aussi, à l'intérieur de la quatrième de bandeau, on rajoute aussi quelque chose qui est en lien avec le livre. Alors, par exemple, dans le polar parmesan, le fleuve des brumes, on a mis la liste des vins qui est bu par le commissaire.
Et il en boit un paquet.
Et voilà, les vins de la région. Ouais.
Il boit des trucs que je connais pas, moi. Et est-ce qu'il y aura des Français ?
Pardon ?
Est-ce qu'il y aura des Français ?
Ah, on n'est pas fermé à l'idée. On n'est pas du tout fermé à l'idée. Ben, on attend de voir ce qu'on pourra trouver, ce qu'on nous enverra.
Alors, qu'est-ce qui peut vous séduire
pour, Pour moi, ce qui est important, c'est qu'il y a toujours cette idée d'être surpris, de découvrir quelque chose de nouveau, etc. Alors, quand je dis découvrir le monde, je parle pas forcément du monde qui est très loin de nous. Hein. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir comment mon voisin vit, s'il y a une façon de vivre différente de la mienne. Je suis assez curieuse. Cela aussi peut m'intéresser. Voilà, après, un point de vue original, un peu différent, sur un sujet qu'on peut connaître tous, hein, par exemple, ouais, y a plein de choses. Et puis évidemment, il y a aussi les voix littéraires. Si c'est quelqu'un avec
la qualité du texte.
Voilà, donc on n'est pas du tout fermé. Là, si vous voulez, l'idée, c'était de rien s'interdire. Donc on dit finalement, on n'a pas vraiment de ligne édito. On publie ce qu'on aime.
Et donc, Spada, moi j'ai beaucoup aimé. Donc c'est très, très exotique, ça se passe en Roumanie. Donc il y a un président, un premier ministre et un ministre de l'Intérieur qui se tirent la bourre sur le dos des tziganes assassinés en série. C'est un vrai panier de crabes, d'où la couverture, je pense.
Ouais.
Et c'est très, très politique quand même.
Oui, c'est ça. Alors, ce qui nous avait intéressé justement dans ce titre-là, c'est que ça commence comme un polar, mais en fait, finalement, c'est pas un polar en soi, c'est un roman noir, et ces histoires de meurtres deviennent secondaires. Donc voilà, c'est des Roms avec un casier judiciaire sont assassinés à Bucarest par quelqu'un qui se fait surnommer le Poignard, donc qui est Spada en roumain, on a gardé le titre original, et finalement, comme c'est quand même un sujet sensible, la minorité rome en Roumanie, c'est-à-dire que bon, les Roumains sont quand même racistes, enfin ouais, ils sont pas très bien intégrés dans la société. Hein,
ils sont plutôt pour le Poignard, oui.
Oui, les Roumains, certains Roumains, oui. Ils pensent que voilà, que le Poignard fait le travail qui aurait dû être fait depuis longtemps. Et en fait, voilà, ce qui nous a intéressé dans ce roman, outre ces histoires de meurtre, c'est vraiment la récupération politique qu'il en est faite, et comment ces politiques entre eux vont. On va pas dire collaborer parce que c'est loin de là. C'est comment vont. Voilà.
Ils vont se faire des croche-pieds tout le long.
Tout ça, voilà. Et en plus, pour moi, ce qui était aussi important, c'est que finalement, ça se passe là-bas, mais on pourrait très bien le voir à Paris.
Non, jamais. On verrait jamais à Paris un président, un premier ministre et un ministre de l'Intérieur se faire des croche-pieds. Oh non.
Oui, voilà, exactement.
Quand même, à propos d'une manif, par exemple, ou des trucs comme ça, jamais on verra ça ici.
Et en plus, on s'est rendu compte, ce livre, il a été écrit il y a quand même quelques années, c'est d'actualité, en fait. On s'y voit, quoi. Et c'est ça aussi qui m'a intéressé, c'est le fait qu'il y ait un message universel, en fait, et bien que ça se passe en Roumanie, vous voyez.
Et il est très, très bien écrit, d'ailleurs.
Oui, et bien, voilà, l'auteur, lui, a fait aussi de la politique, il est professeur à l'ENA roumain, et il a été aussi consultant pour les candidats au présidentiel, et apparemment, là, aux dernières présidentielles, il était consultant pour les deux qui s'affrontaient. Donc celui qui a gagné était très content de son travail, et celui qui a perdu
n'était
pas du tout content. Mais ça se passe qu'en Roumanie, hein, la même personne conseille les deux,
c'est pas notre genre.
Opposants.
Ouais. merci beaucoup, Nadège. Donc, moi, je recommande aux lecteurs d'aller faire un tour sur le site d'Agulo Noir. Oui. On va écouter un peu de musique tzigane de Roumanie avec Smala. Merci, bonne journée.
Merci à vous, au revoir.
Au revoir. Son identité polar, c'est sang-froid. Et j'ai le plaisir d'accueillir son fondateur, Stéphane Damien Tissot. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Mais je croyais que le magazine papier était au bord de la disparition.
Eh bien, il faut croire que non. Non. Vraiment, il y a des contre-exemples qui prouvent que la presse a encore un bel avenir devant elle. J'ai l'habitude de citer l'exemple, par exemple, du groupe Sopresse. qui a sorti Society, qui s'en sort très bien avec SoFoot, avec SoFilm. Donc voilà, on voit qu'il y a encore des médias qui investissent dans le papier. Et nous, on croit vraiment fortement à l'avenir du papier, surtout sur nos formats. On est sur un trimestriel. On a essayé de penser cette revue comme quelque chose d'agréable, que ce soit à garder même dans une bibliothèque, avec une tranche un petit peu soignée, quelque chose qui soit pas trop volumineux pour pouvoir être conservé. Donc voilà.
C'est du 160 pages quand même, c'est du lourd.
C'est du 160 pages, c'est du lourd, mais après c'est assez fin niveau couverture. On est sur une couverture qui fait 9 mm, ça ne s'invente pas quand on fait une revue sur le polar et l'investigation. Ce n'était pas forcément volontaire, mais c'est vrai que le coup de cœur est assez sympa.
C'était ça ou 45 quoi.
Voilà, c'était un peu compliqué après. Donc voilà, on est parti sur 9 mm. Et voilà, donc c'est vrai qu'on a pensé ça comme un petit peu un objet entre guillemets de collection qu'on peut conserver. En plus, on a la chance et le privilège, nous, d'être assez déconnectés de l'actualité. C'est-à-dire qu'on peut lire sans froid, même avec un petit peu de retard. Là, par exemple, on a aujourd'hui notre numéro 2 qui sort, aujourd'hui le jeudi 23 juin. Mais on a encore pas mal de personnes qui nous achètent le numéro 1 parce qu'ils savent qu'il n'y a pas cette temporalité qu'il y a dans la presse où l'édition du lendemain remplace celle de la veille. Sans froid peut se lire un petit peu avec plus de recul.
Donc au sommaire, il y a justice, investigation et polar.
Voilà, c'est notre triptyque. En gros, donc la première partie justice, investigation, donc c'est sur des faits réels. On est sur ce qu'on appelle des affaires judiciaires. Donc on est dans le reportage, dans l'enquête, dans la révélation aussi. Notre idée, c'est de pouvoir sortir entre guillemets des affaires, des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on essaye de faire dans chacun des numéros de Sang-Froid. On reviendra sûrement sur le sommaire de ce numéro 2, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais on a aussi également donc une partie polar, parce qu'on trouvait qu'il y a vraiment des vrais liens entre les deux univers. De plus en plus de journalistes s'imprègnent un petit peu de l'écriture des Polar 2 pour justement travailler leur papier. Bien sûr, on est toujours dans le fait réel, hein, mais ils essayent en tout cas de raconter des histoires en travaillant la plume. Donc nous, c'est quelque chose qui nous parle dans Sang-Froid. Et les auteurs de Polar, eux aussi, de leur côté, lisent beaucoup la presse pour finalement se documenter et en savoir toujours plus sur les univers qu'ils travaillent. Donc il y a vraiment des vraies passerelles entre les deux univers. Donc c'est pour ça qu'on a choisi aussi d'aborder le thème du polar. Et donc dans chacun des numéros de Sang-Froid, on a une nouvelle écrite par un auteur, une interview un petit peu sur les techniques d'écriture, les relations avec les personnages, ce genre de choses, et un portrait découverte, plus des critiques de livres des sorties à venir.
Nouvelle d'un auteur connu ou on peut vous envoyer des nouvelles
Alors, pour l'instant, comme c'est nos premiers numéros, on a aussi, nous, forcément, un besoin et un devoir un petit peu de se faire connaître. Donc, on a pour l'instant misé sur des auteurs connus. Franck Tillier a fait la nouvelle de notre premier numéro.
Ah ouais, quand même.
Oui, c'est plutôt pas mal pour commencer. Et Caril Ferret fait la nouvelle du numéro 2 de Sang-Froid. Donc des auteurs phares pour commencer. Je peux vous annoncer en exclusivité qu'on aura aussi Olivier Truc pour le numéro 3. Donc c'est vrai qu'on a misé pour l'instant sur des auteurs entre guillemets à succès qui nous font également confiance et donc on les remercie. Mais à terme, on aimerait aussi pouvoir publier des nouvelles de personnes moins connues. Donc je vous dirais que pour l'instant, on réserve ce créneau à des auteurs connus, mais à terme, on aimerait bien ouvrir les portes de Sang-Froid à plus de monde.
Ah, ce serait sympa ça. Et au niveau financement, vous aviez lancé une campagne, je crois.
Oui, tout à fait. On a lancé une campagne de crowdfunding il y a quelques temps parce que on avait fait, nous, un premier tour de table avec des investisseurs. On a aussi un apport personnel avec mon associé, donc Yannick Dehé, qui est le directeur des éditions Nouveau Monde. On avait un apport personnel chacun, mais on voulait compléter aussi cela par un financement participatif. Ça nous permet, nous, d'avoir les reins plus solides financièrement, et ça permet aussi également aux lecteurs de s'identifier un petit peu au titre, à Sang-Froid. On l'a vu depuis qu'on a terminé cette campagne de crowdfunding, il y a pas mal de personnes qui finalement sont encore un peu plus proches de nous. Il y a vraiment presque un sentiment d'appartenance à une communauté entre guillemets. Et donc voilà, on a vraiment ressenti ça, et c'est ce qu'on voulait créer aussi, que les personnes qui contribuent se disent qu'ils participent aussi à cette aventure en nous aidant financièrement. Donc on a pu lever 5000 euros par ce biais-là, ce qui nous permet de financer quelques reportages du numéro 3 à venir, et bien sûr après tout le soutien également qu'on a, que ce soit dans les ventes en librairie, en relais et en grande surface culturelle, mais aussi avec les abonnements qui débutent pas mal. Là, on en est qu'au tout début du numéro 2 et on a déjà à peu près 200 abonnés, donc c'est plutôt encourageant.
Ah, vous êtes à peu près là où vous pensiez être ?
Oui, oui, au niveau en tout cas des abonnés complètement, parce que moi je me place aussi en tant que lecteur, personnellement, j'aurais peut-être certaines réticences à m'abonner sur un numéro 1, parce qu'on ne sait pas vraiment de quoi va être fait le numéro 2.
On ne sait même pas s'il y en aura un des fois.
Voilà, c'est ce que j'allais vous dire, on ne sait même pas si l'aventure va continuer. Donc on ne s'attendait pas à avoir énormément d'abonnés sur le premier numéro. Mais déjà, il y a des gens qui nous ont fait confiance, qui se sont abonnés. Là, on commence à en recevoir pas mal par jour, même sur ce numéro 2, parce que les personnes se rendent compte que Sang-Froid a un fonctionnement plutôt pérenne pour l'instant. Et donc, il s'inscrit finalement dans cette aventure. Et nous, forcément, les abonnements, c'est quelque chose qui nous permet de vivre et de voir sur le long terme. Donc, on remercie toutes les personnes qui sont abonnées et on encourage ceux qui ont envie de nous soutenir à le faire. Parce que c'est vrai que les achats en librairie, c'est très bien. Et je suis le premier à soutenir les libraires indépendants notamment et aussi toutes les personnes qui nous distribuent. Mais c'est vrai que pour le long terme, pour nous, avoir le maximum d'abonnés possible, c'est aussi un gage de sécurité finalement.
Oui, ça vous donne de la lisibilité. Sur l'avenir.
La visibilité et puis une trésorerie aussi un peu plus importante, tout à fait. Mais en tout cas, sur le numéro 1, on a vendu 8000 exemplaires environ de notre premier numéro, sachant que notre équilibre est à 6500 exemplaires vendus. On est pour l'instant normalement à l'équilibre.
Vous êtes pas mal du tout.
Voilà, mais c'est une bataille de tous les instants. Il faut continuer parce que forcément, je parle d'un équilibre sur le long terme à 6500, mais sur un premier numéro, on a forcément mis un peu plus l'accent sur la communication, sur ce genre de choses. Donc, on a eu beaucoup plus de dépenses forcément. Donc, mais à l'avenir, notre équilibre devrait être à 6500 exemplaires vendus. Donc, on espère se stabiliser, c'est alentour de 8000 exemplaires. Et puis comme je disais tout à l'heure, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que comme on a une temporalité assez longue et qu'on est assez loin de l'actualité, beaucoup de gens achètent encore notre numéro 1. Donc le Sang-Froid numéro 1 continue de se vendre malgré l'arrivée du numéro 2 en librairie.
Eh bien, on vous souhaite beaucoup de succès pour Sang-Froid, la nouvelle revue Identité Polar. Merci beaucoup Stéphane. On va se quitter en écoutant Apocalyptica, Cold Blood. Ce qui est normal.
Merci.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Till it was all gone.
C'est terminé. C'est le bon moment pour vous souhaiter de bonnes vacances à ceux qui vont partir, de saines lectures effroyables et aux autres un peu de patience en lisant les mêmes bons bouquins. Nous nous retrouvons au mois de juillet, bien sûr, pour une nouvelle émission mensuelle. Sinon, important, c'est officiel, l'ami Photon va revenir pour quelques aventures tout au long de l'été. Soyez vigilants.
Ouais, bye bye. Trousse aux patates.
Ouais. Bye bye.
Bye bye.
Des polars et des notes.